Les cours du Collège de France, Histoire intellectuelle de la Chine, Anne Cheng.
Bien, bonjour et bienvenue à tous. Je pense que je n'ai pas besoin de vous rappeler que le mois de janvier, c'est le mois de la galette, des rois, que vous avez ici à l'image, sur la gauche de la diapositive. Il s'agit donc d'un dessin en couleur tiré du Petit Journal daté de 1898 d'après un dessin de Henri Meyer et qui s'intitule, vous avez le titre en bas, « En Chine, le gâteau des rois et des empereurs ». Et alors, qu'est-ce que vous voyez donc sur l'image? Donc les empereurs, ça vous indique tout de suite que il s'agit d'une charge satirique contre l'impérialisme européen sur la galette chinoise. Vous avez donc cette Chine représentée par une galette qui est en train d'être partagée par la reine Victoria du Royaume-Uni, mais également impératrice. Elle est à la tête d'un empire où le soleil ne se couche jamais. Vous avez à côté d'elle Guillaume II d'Allemagne. Ensuite, alors je pars de la gauche vers la droite. Ensuite, vous avez Nicolas II de Russie. Debout derrière notre Marianne nationale et enfin assis à droite donc l'empereur du Japon, l'empereur Meiji du Japon. Et derrière donc vous avez ce personnage donc coiffé de la coiffe manchoue qui lève les bras enfin à la fois en fait parce qu'il est totalement effaré et en même temps tout à fait impuissant, puisque on voit donc sur l'image Guillaume II qui dispute le morceau à la reine Victoria, donc ils sont tous les deux armés d'un couteau bien acéré et qui essayent de planter tous les deux donc sur la galette, à côté donc Nicolas II s'intéresse lui aussi à une part de gâteau, et notre Marianne est debout derrière parce que pour l'instant elle n'a pas l'air de participer activement au partage, puisque en fait elle se tient à côté de Nicolas II et il est possible que cela évoque l'alliance franco-russe de l'époque. Et enfin, l'empereur du Japon est comme ça, et donc il a l'air de réfléchir à quelle part il pourrait prendre. Alors, vous voyez ici donc une caricature qui apparaît donc dans un journal français, mais on a le phénomène équivalent donc à l'autre bout du continent eurasiatique, puisque à partir de surtout des années 1875, et ça accompagne l'essor de la presse en Asie et en Chine dont j'ai parlé précédemment, vous avez également un développement du dessin de presse, et en particulier de la caricature et de la caricature politique, qui se développe évidemment sous l'influence occidentale, avec la publication dans des journaux qui bénéficient de ces nouvelles techniques d'impression lithographique. Alors, je vous montre ces caricatures parce que, encore une fois, nous parlons de ce qui se passe en Chine il y a un siècle, mais vous aurez peut-être remarqué que le genre de la caricature politique dans la Chine actuelle a tendance à se raréfier, pour ne pas dire ne plus exister du tout. Sur la droite de la diapositive, j'ai placé la couverture d'un ouvrage récent qui est dû à nos collègues Laurent Baridon et Marie Laureillard, qui s'intitule donc Caricature en Extrême-Orient et qui est paru en 2024 aux éditions Hémisphère. Et donc là, c'est un ouvrage assez complet sur la question. Il y a également donc une étude très poussée et très développée de notre regretté collègue allemand Rudolf Wagner, qui est maintenant décédé, et qui est parti des études classiques pour en arriver à s'intéresser justement au développement de la presse en Chine à la fin du XIXe siècle. Et dans le cadre donc de ses recherches, il a publié ce long article qui s'intitule « China Asleep and Awakening, a study in conceptualizing asymmetry and coping with it », c'est-à-dire la Chine endormie et en train de se réveiller, une étude sur la conceptualisation de l'asymétrie, pas de la symétrie, mais de l'asymétrie, c'est-à-dire l'absence de symétrie, et la façon de comment dire coping with it, c'est-à-dire de s'arranger avec. Et c'est paru donc dans le Journal of Transcultural Studies, le journal des études transculturelles, qui est basé à Heidelberg. Le journal daté de 2011. Dans cet article, Rudolf Wagner étudie en particulier, enfin c'est par là qu'il commence, il étudie les variantes d'un dessin qui a fait fortune jusqu'à se retrouver sous des formes diverses, avec aussi des petites différences. Mais là, je vous ai choisi la version en couleur, qui vient un petit peu plus tard que la version originale, qui, elle, est en noir et blanc, qui datait de 1899, et qui décrit donc le jeu du trou, c'est-à-dire donc vous avez la carte de la situation du moment, c'est-à-dire donc de cette toute fin du XIXe siècle. Et vous avez une carte animalière, où les puissances en fait sont représentées par des animaux. Vous avez en plus gros l'ours, l'ours russe forcément. Vous avez en dessous donc ce qui était dans la version originale un bulldog, mais qui est devenu, il me semble, quelque chose qui ressemble plus à un lion, qui est le bulldog ou le lion anglais. Vous avez encore plus au sud la grenouille, c'est nous, la grenouille française, assise sur l'Indochine. Et vous avez donc en l'air l'aigle américain, qui rôde au-dessus de tout ce beau monde, et puis bien sûr les îles japonaises avec le soleil levant du Japon. Et puis au milieu de tout ça, donc vous avez la Chine, où vous entrevoyez donc des Chinois habillés à la mode manchou, bien sûr, comme il se doit à l'époque, qui sont couchés, c'est-à-dire drogués à l'opium, et qui sont en train de faire bombance dans une insouciance totale. Sur les côtés, en vertical, vous avez sur la droite de l'image. Ah oui, et puis alors j'oubliais en bas, bien sûr, alors tous les animaux, alors ce sont vous voyez des vaches, toutes sortes d'animaux qui se pressent en bas avec les drapeaux nationaux. Vous voyez en l'air un drapeau italien qui flotte. Enfin, donc vous avez d'autres puissances un peu moindres qui aussi essayent d'avoir leur part du gâteau. Et alors donc, vous avez de part et d'autre de l'image en verticale. Donc sur la droite, l'inscription qui vous dit Puyin a eu, c'est-à-dire donc cette image, elle, si je traduis un peu librement, elle parle d'elle-même, c'est-à-dire elle se passe de tout commentaire. Et l'inscription que vous avez en parallèle sur le côté gauche, c'est-à-dire donc on peut comprendre ce qui se passe d'un seul coup d'œil. Donc c'est une façon de vous dire que en fait, ce qui occuperait plusieurs numéros de journaux, une information journalistique développée, se résume ici à un dessin. Et donc, vous avez ici une critique géopolitique qui peut se résumer à un seul dessin, à une seule caricature. Alors, dans le livre de Laurent Baridon et de Marie Lorillard que je viens de signaler, vous avez ce dessin qui apparaît sur la gauche de l'image et qui vous montre en fait une caricature extrêmement astucieuse qui est due à un des plus grands caricaturistes de l'époque et qui utilise une technique japonaise dont vous avez le nom en haut, le mojie. Le mojie, c'est, vous en avez un exemple à droite, c'est un exemple japonais d'un personnage avec donc le dessin de ses vêtements qui en réalité utilise une écriture, utilise des formes d'écriture. Et donc, le mojie, c'est très littéralement, comme le dit l'expression japonaise, c'est un dessin qui est fait avec des mots, avec des caractères écrits. Et donc, cette technique est reprise dans cette caricature que vous avez à gauche, et qui, elle, date de 1908. Elle est apparue dans le journal Shenzhou Ribao. Et elle est due donc à ce Ma Xingchi, dont on va voir un autre dessin un peu plus loin. Alors, que j'essaye de vous expliquer, parce que là aussi, en fait, si vous lisez le chinois, en principe, vous reconnaissez tout de suite que le personnage de gauche. Bon, vous n'avez pas besoin de lire le chinois pour reconnaître un personnage qui est habillé à l'occidental avec un chapeau haute forme qui est constitué avec les trois caractères que vous avez sur au milieu de l'image par Hu, c'est-à-dire est-ce que ce monsieur apporte par Hu, c'est-à-dire une protection. À droite, vous avez un autre personnage qui lui fait face et qui est un personnage chinois qui porte là aussi la coiffe des serviteurs de l'État impérial, un fonctionnaire en gros, et qui est constitué des trois caractères kuafenhu, c'est-à-dire est-ce que il s'agirait pas plutôt de coiffen, c'est-à-dire donc littéralement du découpage du melon. Alors, donc maintenant vous comprenez le message, c'est-à-dire que vous avez ces puissances occidentales qui viennent en Chine en se présentant comme des protecteurs, en établissant d'ailleurs des protectorats, n'est-ce pas ? Alors que justement le personnage chinois n'est pas dupe. Et il comprend très bien que, en fait, ces prétendus protectorats sont plutôt une manière de se partager le gâteau. Et en chinois, c'est plutôt se partager le melon, le découper en tranches. Vous avez un autre. Bon, on se fait un petit peu plaisir aujourd'hui. Hein, on est parti de la galette, mais vous avez justement ces images qui vous montrent. Alors que les les Occidentaux ont tendance à représenter la Chine comme une puissance endormie, hein, qui, c'est une thèse qui a été reprise à l'envi par des gens comme Alain Perfit, hein, quand la Chine s'éveillera, hein, parce que pour l'instant elle dort, et elle attend le baiser du prince charmant occidental pour la réveiller. Bon, alors donc j'essaie de vous montrer que en fait les politistes et les caricaturistes chinois sont pas du tout dupes. Et là, vous avez un autre dessin en plusieurs parties qui, lui, date de 1911. On est vraiment en fait au moment de la bascule révolutionnaire, hein, qui va donner lieu à l'établissement de la première République chinoise. C'est un dessin qui est également paru dans le Shenzhou Ribao. Et qui vous montre donc en quatre parties, hein, ce qu'est c'est ce que dit le titre sur la droite, une vision de la Chine au présent et au passé. Alors ça se lit de droite à gauche et de haut en bas. Hein, donc on commence par l'image numéro 1, ici, voilà. Vous avez d'ailleurs l'indication 1. Je vous dis toujours, vous pouvez épater les amis en sachant compter en chinois jusqu'à 3. Hein, 1, 2, 3, là. Après, ça se complique un petit peu. Donc, la première image, c'est ce qui est écrit ici. C'est Qianlong de Zhongguo, c'est-à-dire la Chine des règnes de Qianlong, c'est-à-dire de l'empereur Kangxi, et de Qianlong, c'est-à-dire donc disons 17e, 18e siècle, hein, en gros, hein. Bon, où là, vous avez une dynastie manchoue qui prend le pouvoir, encore une fois, donc en 1644, qui devait régner jusqu'à 1911 et qui, pendant ces en gros deux premiers siècles de règne, donne cette image de puissance. Donc vous avez un tigre qui fait peur à tout le monde, hein, donc tout le monde s'enfuit devant le tigre. Deuxième image, nous sommes là sous l'ère Xianhong, c'est-à-dire nous sommes dans la deuxième moitié du 19e siècle, hein, l'ère Xianhong, ça va de 1850 à 1875, et là, vous avez donc un tigre qui a l'air d'être un tigre empaillé, hein, et dont les Occidentaux s'approchent, mais prudemment. Voilà, ils viennent voir un peu si c'est un vrai tigre ou si c'est juste un animal empaillé. Et puis alors la troisième image, ça vous montre donc Xianzha de Zhongguo, c'est-à-dire donc la Chine de maintenant, c'est-à-dire de 1911, où là donc nos Occidentaux se sont enhardis, hein, commencent non seulement à s'approcher, toucher le tigre empaillé, se rendre compte que justement c'est pas un tigre vivant. Commence même à essayer de lui arracher les poils. Et puis la quatrième image, c'est Jianlai de Zhongguo, c'est-à-dire la Chine à venir. Et là, on a une vision dystopique alors de la Chine à venir, de ces Occidentaux qui sont en train de dépecer le tigre. Ils lui ont déjà coupé la tête et ils sont en train de lui enlever sa fourrure. Hein. Bon. Donc là, c'est au fond la vision qu'on pouvait avoir justement du destin de la Chine il y a un siècle, hein. C'est-à-dire donc une vision d'un déclin progressif et d'un avenir plus que pessimiste. Hein. Bon, pendant ce temps-là, donc nous avons notre Liang Qichao. Hein, revenons à lui. Qui essaye justement de penser à la fois donc le passé, le présent et l'avenir de la Chine, hein, de son point de vue, et c'est ce que nous avions vu dans le texte qui constitue la préface de son Ximinshuo, c'est-à-dire donc de son discours sur le renouvellement du peuple ou sur le nouveau citoyen. Je vous relis rapidement la traduction. Depuis l'apparition de l'humanité dans le monde jusqu'à aujourd'hui, les États qui ont existé sur le globe se comptent par milliers, voire par dizaines de milliers. Mais parmi eux, combien subsistent encore aujourd'hui, se dressant avec majesté et occupant chacun une couleur sur la carte des cinq continents? La réponse est à peine une centaine. Et parmi cette centaine d'États, combien peuvent se tenir solidement debout, exercer une influence décisive sur le monde et être capables à l'avenir de triompher dans l'arène de l'évolution naturelle? J'ai souligné donc en rouge cette expression Tianyan qui est l'expression désormais consacrée pour traduire la notion d'évolution naturelle, sur laquelle on va revenir tout de suite. Et la réponse est 4 ou 5 tout au plus. Et pourtant, tous ces pays partagent le même soleil, la même lune, les mêmes montagnes, les mêmes rivières, les mêmes pieds, les mêmes têtes. Pourquoi donc certains prospèrent-ils tandis que d'autres périssent? Pourquoi est-ce que certains s'affaiblissent tandis que d'autres se consolident, se renforcent? Quelle en est la raison? Alors certains disent c'est la géographie. Mais l'Amérique d'aujourd'hui n'est-elle pas la même que l'Amérique d'autrefois? Alors pourquoi la race anglo-saxonne britannique y jouit-elle d'une telle gloire? La Rome ancienne n'est-elle pas la même que la Rome actuelle? Alors pourquoi la nation latine a-t-elle vu son prestige s'effondrer? D'autres disent ce sont les yingxiong, c'est-à-dire littéralement les héros. On pourrait comprendre en fait les hommes forts, hein, comme on les aime aujourd'hui. Mais Alexandre n'a-t-il pas existé? Pourquoi donc la Macédoine n'est-elle plus aujourd'hui que poussière? Gengis Khan n'a-t-il pas existé? Pourquoi donc la Mongolie d'aujourd'hui survit-elle à peine? Eh bien, moi, j'en connais la cause. Et là, je vous ai souligné la phrase, donc, donc un État se forme par littéralement l'accumulation de son peuple. Alors cette notion de ti, c'est le fait d'accumuler quoi? Accumuler de la force, accumuler de l'énergie, hein, du chi, comme on le verra plus tard, hein, de l'énergie vitale. Et la phrase continue en disant « Le peuple d'un État est à l'État ce que les quatre membres, les cinq viscères, les nerfs, les veines et la circulation du sang sont au corps humain. » Or, jamais on a vu un corps dont les membres seraient amputés, les viscères ravagés, les nerfs détruits et le sang tari continuer à vivre. De même, jamais on a vu un peuple ignorant, lâche, dispersé et confus permettre à un État de se maintenir debout. Ainsi, si l'on souhaite que le corps vive longtemps et voie loin, il faut impérativement maîtriser l'art de garder la santé, et si l'on souhaite que l'État soit en paix, prospère, respectable et puissant, il faut impérativement enseigner le Ximinshuo, enseigner la voie du renouveau du peuple, qui fait donc la voie du renouveau du peuple. Ça fait tout le propos justement du Ximinshuo dont nous avons ici le texte introductif. Et alors ici, vous avez donc juste une dernière caricature qui vous montre, hein, littéralement, c'est un autre dessin du même Ma Xingchi dont je vous parlais tout à l'heure, qui est paru en 1919 et qui a une légende au-dessus, hein, qui vous dit Minqi Yizhi Xiaoguo, c'est-à-dire donc l'effet du souffle du peuple quand il est un, hein, quand il souffle en même temps tous ensemble. Hein. Donc là, vous voyez que le peuple, vous le voyez très littéralement souffler et balayer donc le pouvoir en place. Donc c'est évidemment une métaphore pour vous dire que le peuple a assez de souffle, hein, il a assez de d'agentivité, de puissance justement pour se débarrasser donc de dirigeants dont il ne veut pas. Alors c'est peut-être un petit peu idéaliste, hein, comme image, parce que on pourrait essayer, hein, remarquer, mais je doute que ce soit très très efficace. Mais toujours est-il que là, vous avez quand même justement au fond une illustration. 1919, nous sommes déjà au moment du mouvement du 4 mai 1919, où là, en fait, la Chine se réclame justement des valeurs occidentales que sont la démocratie et la science. Et donc ici, vous avez en fait un dessin un petit peu naïf, mais qui représente au fond ce que peut être la démocratie. Hein, c'est-à-dire si le peuple se met ensemble, il est capable de renverser donc ses dirigeants. Donc là, il y a une charge tout à fait subversive que je sur laquelle c'est inutile d'insister. Alors, donc vous voyez qu'ici, le texte introductif de Liang Qichao évoque une conception organique de l'État, dont le peuple n'est rien d'autre que le corps, avec ses membres, ses organes, ses viscères, son sang, etc., et son énergie vitale, son fameux qi. Et donc cet usage de la métaphore corporelle pour penser l'État a en réalité des antécédents chinois. Alors, traditionnellement, il y avait justement cette conception organique du corps sociopolitique, mais en fait, c'était une vision qui mettait l'accent sur la division du travail entre, d'une part, le souverain et ses ministres, qui étaient comparés à le souverain étant la tête, hein, et le peuple étant donc les membres. Hein. Donc là, il y avait une sorte de vision organique, mais une vision hiérarchisée quand même, c'est-à-dire avec une tête qui porte justement toutes les décisions et le corps, les membres qui se contentent d'exécuter. Hein. Et rarement on y voit véritablement une sorte d'agentivité organique du corps de l'État. Alors, on peut considérer donc que Liang Qichao ne fait que reprendre une conception chinoise ancienne, hein, du corps sociopolitique, mais justement, ce qu'il fait, c'est que il consolide cette conception à l'aide de théories qu'il emprunte à divers auteurs européens. Liang Qichao, c'est quelqu'un qui lit énormément, hein, qui se documente énormément. Hein. Et au début des années 1900, il tombe donc sur les écrits, enfin grâce justement à la médiation japonaise, encore une fois, il tombe sur les idées d'un certain Johann Caspar Bluntschli, que vous avez ici à l'image, qui est né donc en 1808 à Zurich, en Suisse, et qui est mort en 1881 à Karlsruhe. Et donc c'est un juriste et un homme politique suisse qui a enseigné donc ses théories essentiellement à l'université de Zurich et qui est un théoricien de l'État et du fédéralisme. Vous avez donc sur la droite de la diapositive donc la couverture d'une traduction en français de sa théorie générale de l'État. La traduction française date de 1877. Elle est parue quelques années après donc la parution de l'original en allemand. qui s'intitule donc Allgemeine Staatslehre, qui fait partie donc d'un ensemble qui porte sur le Allgemeines Staatsrecht, c'est-à-dire le droit de l'État général, théorie générale de l'État. En bas de la diapositive, je vous ai signalé donc là aussi un article important de notre éminente collègue et académicienne Marianne Bastide-Bruguière, qui s'intitule « Aux origines des conceptions modernes de l'État en Chine, la traduction du Guojialun, c'est-à-dire donc du traité sur l'État de Johann Caspar Bluntschli. » Et c'est un article qui est paru dans un mélange en hommage à Léon van der Mersch, donc éminent sinologue disparu. Donc, vous savez que c'est l'habitude académique d'offrir des mélanges, ou en allemand un Festschrift, à un collègue qui s'apprête à se retirer, à prendre sa retraite. Et là, ce sont des mélanges qui ont été réunis par Jacques Gernet, autre éminent sinologue, qui a été longtemps professeur ici, au Collège de France, et Marc Kalinowski, donc notre collègue de l'École pratique des hautes études. Alors, ces mélanges s'intitulent « En suivant la voie royale », par référence justement aux travaux de Léon van der Mersch sur ce qu'il a appelé le « Wangdao », donc la voie royale. Et alors, donc, dans un résumé de son article, Marianne Bastide-Bruguière dit que le premier texte publié en chinois qui traite de la théorie générale de l'État et de la construction de l'État moderne, c'est ce Guojialun de Bluntschli, qui a été donc imprimé en chinois dans le journal créé par Liang Qichao, le Qing Yi Bao, en 1899. Vous vous rappelez que le Qing Yi Bao, c'est le journal qui a précédé le Ximin Congbao et qui a fini par brûler. Et donc c'est ça qui a amené Liang Qichao à créer donc un nouveau journal. Donc ce texte du Guojialun donc constitue en réalité une partie de la traduction publiée la même année à Tokyo en chinois classique par Azuma Heiji de l'ouvrage de Bluntschli qui s'intitule donc en allemand Deutsche Staatslehre für Gebildete, que vous avez donc au milieu de la diapositive, dont la première édition date de 1874. Qui est un manuel de droit qui est extrêmement répandu en Europe à l'époque. Alors, ce Deutsche Staatslehre für Gebildete, c'est la science politique allemande pour les personnes instruites. Et donc, Marianne Bastide-Bruguière rappelle que les articles de Liang Qichao publiés en 1903 sur la doctrine étatique de Bluntschli ne sont que d'autres extraits de cette même traduction, de cette traduction donc par un japonais en chinois classique de ce texte allemand. Donc là, encore une fois, c'est l'occasion d'insister sur cette médiation japonaise. Alors, ce qui est tout à fait remarquable, c'est que les Japonais, comme s'ils voulaient faciliter encore plus le travail de leurs homologues chinois, c'est qu'ils traduisent en chinois, en plus, en chinois classique. C'est ce qu'a fait, par exemple, Nakae Chomin, des textes de Rousseau, qu'il a traduit en chinois classique, et qui ont été publiés au Japon. Parce que, à l'époque, vous aviez donc des savants japonais qui étaient persuadés que le chinois classique était la langue des clercs et que, par conséquent, ça aurait beaucoup plus de diffusion si c'était publié en chinois plutôt que en japonais vernaculaire. Et donc, les nouvelles catégories de discussion de l'État et de ses relations avec la société, que Liang Qichao est largement reconnu pour avoir introduite dans les débats intellectuels chinois, étaient en fait de simples importations du cadre conceptuel fondamental élaboré par la science politique allemande du XIXe siècle, et ont probablement, et ça c'est Marianne Bassi-Bruyat qui le dit, ont probablement contribué à faciliter l'acceptation ultérieure du marxisme. C'est-à-dire que là, il y a déjà en fait un premier contact dès le XIXe siècle avec les théories de l'État provenant justement de ces penseurs germanophones, et qui, selon Marianne Bassi-Bruyat, donc ont probablement facilité l'introduction du marxisme allemand plus tard. Alors cette théorie par Bluntschli de l'unité organique de l'État conceptualise et systématise des approches présentes en Europe et donc plus particulièrement dans l'espace germanophone depuis déjà le début du XIXe siècle. Et donc la doctrine de Bluntschli considère le caractère organique de l'État comme reposant sur la subordination patriotique du peuple aux objectifs globaux de l'État. Donc c'est là qu'on comprend pourquoi une telle théorie pouvait séduire quelqu'un comme Liang Qichao, qui lui venait de la conception chinoise, puisque au fond ça se rejoint, c'est-à-dire que vous avez cette conception du corps sociopolitique qui forme un tout organique et qui comporte quand même une tête avec un corps qui suit donc ce que décide la tête. Alors bien sûr cette tradition allemande est totalement ou presque totalement opposée aux idées de notre Rousseau, hein, Rousseau qui était suisse aussi mais francophone, sur le contrat social. Donc là vous avez vraiment deux écoles qui s'opposent. Et c'est ça aussi qui explique que Liang Qichao ait été finalement assez peu intéressé par les idées de Rousseau. Même si, justement, en étant au Japon, il avait justement accès aux traductions de Nakae Chomin. Alors, pour Liang Qichao, la chose est très claire, c'est-à-dire qu'à son époque, la Chine n'est pas un État-nation moderne, et ne pourra le devenir que si les conditions de ce qu'il appelle le Ximin, c'est-à-dire le renouvellement du peuple, sont satisfaites. Et alors ces conditions, c'est que il faut justement un peuple qui s'empare de son agentivité, c'est-à-dire se rendre compte que c'est pas simplement un sujet qui suit donc les décisions de d'un empereur, mais qui participe donc au processus de décision. Et la métaphore de l'organisme sociopolitique est également très présente dans une autre école, alors elle qui est une école anglaise, à savoir donc dans les écrits du sociologue anglais Herbert Spencer, dont l'importance a été, comme vous le savez, décisive dans la formation de la pensée évolutionniste et par conséquent, justement, qui a eu une influence absolument décisive sur les conceptions politiques est-asiatiques. Alors, ici, je reviens à un autre personnage dont je vous parlais il y a deux ans, à savoir Yan Fu, que vous avez sur la diapositive à droite. Yan Fu, qui a vécu entre 1854 et 1921, et qui est donc l'aîné, il est véritablement de la génération précédente, par rapport à Liang Qichao, qui lui, je le rappelle, est né en 1873 et qui est mort en 1929. Alors, Yan Fu est aussi justement un très grand passeur des théories notamment politique européenne vers la Chine. J'insistais il y a 2 ans sur le fait que sa méthode diffère énormément de celle de Liang Qichao, puisque lui, en fait, il a été formé à la langue anglaise. Il a même séjourné en Angleterre. Et donc, lui traduit des auteurs anglais, anglophones, directement donc de l'anglais et intégralement. Et donc il a un certain dédain pour ce que fait Liang Qichao, parce que Liang Qichao il picore, hein, il traduit ce qui l'intéresse, ce qui l'arrange, alors que Yan Fu lui prend le parti de traduire intégralement les œuvres d'un auteur. Voilà ce que ça donne. Hein. Alors vous avez ici une liste qui est loin d'être exhaustive. Vous voyez que nous avons un traducteur absolument compulsif, hein, dont je rappelle donc les traductions majeures, hein, et qu'on va passer en revue très rapidement. Donc vous avez d'abord de Thomas Henry Huxley, Evolution and Ethics, hein, qui date de 1893, et que Yan Fu traduit quelques années plus tard, en 1898, sous le titre de Tian Yan Lun. Et c'est à Yan Fu qu'on doit justement la traduction de cette notion d'évolution naturelle, hein, par Tian Yan. C'est-à-dire littéralement donc un processus évolutoire qui tient au ciel. Quand en Chine on parle du ciel, en fait on parle de tout ce qui est justement naturel. Vous avez ensuite la traduction en 1901 du fameux traité de Adam Smith, hein, The Wealth of Nations, qui lui date du XVIIIe siècle, 1776, mais Adam Smith, c'est vraiment la Bible justement du libéralisme économique qui prévaut dans notre monde encore aujourd'hui. Hein. Donc là, Yan Fu avait bien aperçu que c'était quelque chose d'important. Il le traduit en 1901 sous le titre de Yuan Fu, hein, c'est-à-dire donc l'origine de la richesse. En 1903, il s'attaque donc au travail de Herbert Spencer, en particulier ce titre de Study of Sociology, donc daté de 1873, que Yan Fu traduit sous le titre de Qun Xue Yi Yan, où là vous retrouvez justement sous le premier mot, hein, du titre, Qun, hein, ce mot sur lequel j'attirais votre attention la dernière fois, où vous reconnaissez la composante ici yang, ici, qui désigne tous les ovins et les caprins, c'est-à-dire donc tout ce qui est mouton, chèvre, etc., c'est-à-dire l'idée de troupeau. Et cette idée de qun, c'est-à-dire que les humains ont cette caractéristique de se regrouper en communauté, hein, c'est-à-dire en troupeau, hein, c'est un terme important justement dans le vocabulaire de l'époque, parce qu'il se distingue de l'individu, hein, de la dimension individuelle que vous retrouvez dans le titre de la traduction suivante, qui est la traduction du « On Liberty », sur la liberté de John Stuart Mill, qui date de 1859, et la traduction de Yan Fu qui a été faite en 1903, et qui choisit, alors non pas de traduire par la notion de liberté comme l'ont fait les Japonais avant lui, hein, mais par cette espèce de périphrase qui est donc Qunji. C'est-à-dire donc les démarcations entre ce qui tient du troupeau, c'est-à-dire du groupe, hein, du collectif, et du qi, c'est-à-dire du soi ou de l'individu. Donc il comprend justement le message de Mill dans ce sens-là, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui réfléchit sur ce qui fait la liberté de l'individu au sein du groupe, hein, et des individus entre eux au sein du groupe et des groupes entre eux au sein d'un ensemble plus large. Hein. Et je terminerai avec les traductions donc de Yinfo, avec bien sûr la traduction intégrale, s'il vous plaît, de l'Esprit des lois de Montesquieu, hein, dont je vous rappelle que la première édition date de 1748, et Montesquieu, c'est le seul auteur français, hein, qui figure dans la liste des traductions de Yinfo, qui ne traduit que de l'anglais, et là, il a fait sa traduction à partir de la traduction de l'Esprit des lois de Thomas Nugent du XVIIIe siècle, sous le titre chinois de Fa Yi, c'est-à-dire donc le sens ou la signification des lois, et il a pris 5 ans pour le faire, hein, mais quand on voit le volume que c'est quand même un exploit, hein, entre 1904 et 1909. Et là, je rappelle au passage qu'il existait déjà une traduction par un japonais, en fait, d'origine chinoise, dès 1875. Alors, maintenant, je voudrais quand même revenir un instant sur donc l'effet produit par cette traduction de Herbert Spencer. Donc, je rappelle que Herbert Spencer, c'est quelqu'un qui a vécu entre 1820 et 1903. C'est un penseur anglais à qui on attribue donc la parenté du fameux darwinisme social et de l'expression survival of the fittest, c'est-à-dire la survie du plus apte, qui aurait été inspirée à Spencer par la lecture de Charles Darwin, The Origin of Species, donc l'origine des espèces, publié en 1859. Donc Spencer est un... Alors bon, je vous rappelle pas évidemment toutes les controverses qu'il y a eu et qu'il y a encore d'ailleurs autour des thèses de Darwin, mais Spencer, lui, est un adepte enthousiaste de la théorie darwinienne de l'évolution, hein, et il pense en plus que cette théorie peut être appliquée aux sociétés humaines. Hein. Alors, dans son Principles of Biology, qui date de 1864, Spencer écrit This survival of the fittest, which I have here sought to express in mechanical terms, is that which Mr. Darwin has called natural selection, or the preservation of favored races in the struggle for life. Donc cette survie du plus apte que j'ai tenté ici d'exprimer en termes mécaniques, est ce que M. Darwin a nommé la sélection naturelle ou la préservation de races favorisées dans la lutte pour la vie. Alors, pourquoi est-ce que j'insiste là-dessus, hein, pourquoi est-ce que je vous inflige justement tous ces auteurs anglais? C'est parce que c'est sur fond de ces théories d'évolution naturelle, de sélection naturelle, de lutte pour la survie, hein, du plus apte, qu'il faut comprendre la manière dont Liang Qichao conçoit l'ordre politique, l'État et, au bout du compte, la liberté des citoyens. Je vous annonçais que quand Liang Qichao parle de liberté, hein, des citoyens, hein, il entend quelque chose de très très spécifique qui ne correspond pas du tout forcément à ce que nous nous attendons. Alors, vous avez donc en bas de la diapositive donc une citation de Liang Qichao qui date de 1906 et qui résume bien ce qu'il a compris justement de ces théories anglaises. Il vous dit ceci, donc, « Guo jia zhe you ji ti ye », c'est-à-dire l'État, hein, au fond, c'est un « ji ti », c'est-à-dire c'est un organisme. Et en note, il ajoute « Ji wei you ji ti, ze bu de bu xun shen wu zhi gong li, yi jing shen cun yu yu shen lie bai zhi lin. » Donc, il ne peut, en tant qu'organisme, il ne peut que suivre la loi générale du vivant et subsister dans la jungle, lin, c'est la forêt, la jungle, de la survie du plus apte. Donc ici, dans cette expression, donc yo sheng lie bai, il reprend donc cette expression qui traduit cette notion de survival of the fittest, hein, survie du plus apte, et qui, je vous le rappelle, est le titre du quatrième article de son Ximin Shuo. Hein. Alors, ce qui illustre tout à fait en fait cette adhésion de Liang Qichao à cette idéologie extrêmement sélective et on pourrait dire aussi tout à fait raciste, hein, parce que Liang Qichao va également absorber justement cet aspect des sélections des races. Hein. C'est qu'il reprend, alors ça c'est quelque chose d'assez nouveau dans la tradition chinoise, hein, mais qui se fait de plus en plus, c'est non seulement de citer des mots en langue européenne, notamment en anglais, mais là il cite carrément tout un poème, enfin si on peut appeler ça de la poésie, hein, à la fin du septième article de son Ximin Shuo, hein, l'article qui est consacré à l'esprit d'entreprise et le goût du risque. Alors c'est un poème en anglais qui est dû à un obscur poète américain qui s'appelle James Riley et qui date de 1886 et qui s'intitule « Climbing up the hill », c'est-à-dire donc escalader une colline. Hein. Et alors là, j'espère que Liang Qichao ne l'a pas choisi pour sa qualité poétique, parce que voilà ce que ça donne. Hein. Never look behind, boys, when you're on the way. Time enough for that, boys, on some future day. Enfin, ça rime hein, quand même. Bon. Though the way be long, boys, face it with a will. Never stop to look behind when climbing up a hill. First, be sure you're right, boys, then with courage strong. Strap your pack upon your back and tramp, tramp along. When you're near the top, boys, of the rugged way, do not think your work is done, but climb, climb away. Success is at the top, boys, waiting there until patient, plodding, plucky boys have mounted up the hill. Bon, alors, je ne sais pas si... oui, alors, est-ce qu'il faut que je traduise? C'est-à-dire que, bon, en gros, le poème dit... Alors, ça s'adresse à un groupe de garçons. Alors, bon, là, encore une fois, les féministes en restent pour leur compte. Hein, bon, alors là, vous allez voir que je pense que c'est un poème qui a été beaucoup repris dans les milieux scouts et tout ça, hein, parce que vous allez voir, c'est un éloge de l'effort, hein, et qui commence par ne vous retournez jamais, ne regardez jamais derrière vous, hein, quand vous êtes en marche. Vous aurez largement le temps de faire ça un autre jour. Pour l'instant, même si la route est longue, il faut y faire face avec la will, une volonté. Donc là, cette notion de volonté, voire de volonté de puissance, est reprise par Liang Qichao. Ne vous arrêtez jamais pour regarder derrière vous quand vous escalader la colline. Commencez par être sûr d'avoir raison, et ensuite, avec un courage sans faille, faites votre paquetage sur votre dos et marchez. Hein. Et lorsque vous êtes près du sommet de ce long chemin, ne pensez pas que le travail est fait, mais continuez à grimper, parce que la réussite, success, is at the top. Hein, donc la réussite est seulement au sommet. Hein, et elle attend justement que vous autres, garçons patients et courageux, que vous ayez atteint donc le haut de la colline. Bon, donc là nous avons quelque chose qui évidemment est dans l'air du temps, mais que j'aurais bien, enfin ce poème entre guillemets, j'aurais bien aimé vous le lire avec l'accent de Monsieur Trump, parce que c'est un poème américain. Mais enfin, ça vous montre ensuite justement ce que quand on arrive justement à cette thématique de la liberté, hein, dont parle Liang Qichao, je pense que le contexte est tout à fait important. Alors justement, quelques derniers mots concernant ce contexte. Je reviens donc à cette traduction, hein, de On Liberty de John Stuart Mill. Alors j'ai choisi cette couverture qui n'est pas évidemment la couverture de l'édition d'origine, mais vous avez une photo ici. Alors c'est quand même, enfin, une petite concession aux féministes. Vous avez John Stuart Mill assis avec, debout derrière lui et la main posée sur son épaule, son épouse, sa chère épouse. Qui est aussi son égérie, hein, et qui le vient de perdre au moment où il écrit donc l'introduction à ce traité sur la liberté, hein, et où là il dit carrément que c'est elle qui lui a inspiré toutes ses idées. Hein. Donc ça, c'est quand même assez rare, surtout de la part d'un gentleman anglais du 19e siècle, de reconnaître que c'est son épouse qui lui a soufflé les idées qu'il l'expose dans ses écrits. Bien. Alors, on a vu que le parti pris de Yen Fu de traduire ce titre est un parti pris assez spécial, hein, puisque à aucun moment il ne fait allusion au concept de liberté. Hein. Alors, ce concept de liberté introduit en Asie a été étudié par notre collègue américain, donc Douglas Holland, dont j'ai eu l'occasion de vous parler déjà et de citer certains travaux. Ici, il s'agit de son ouvrage intitulé « Personal Liberty and Public Good, The Introduction of John Stuart Mill to Japan and China ». Donc, la liberté personnelle et le bien public, l'introduction de John Stuart Mill au Japon et en Chine. Et c'est un ouvrage qui est paru aux presses universitaires de Toronto en 2010. Alors, dans cet ouvrage, Douglas Holland rappelle que On Liberty de J.S. Mill a d'abord été traduit en japonais. Hein, alors, il rappelle justement, en fait, dans quelles conditions donc les idées de Mill sont arrivés au Japon. Vous avez d'abord la médiation de ce personnage tout à fait central du Japon de l'ère Meiji, Fukuzawa Yukichi, dont on a parlé il y a deux ans, hein, né en 1935, mort en 1901. Dans son texte, le Seiyo Jijo, hein, qui date de 1866, qui littéralement veut dire donc les circonstances de Xi'an, c'est-à-dire Seiyo de l'Occident, hein, donc il parle justement de ce qu'il observe en Occident, hein. Il commence à introduire donc ces mots anglais, hein, en transcription, hein. Donc il dit il y a ces deux mots anglais pour désigner une certaine notion de liberté, hein. Vous avez d'abord furidomu, qui est la transcription de freedom. Il faut avoir un peu de gymnastique, hein, pour le comprendre. Et puis vous avez aussi le mot riberuchi, qui est la transcription de liberty, d'accord. Alors ça, c'est et donc dans cette citation, donc Fukuzawa Yukichi dit bien que en fait il n'y a pas encore de mots appropriés pour traduire cette notion. Donc il parle en 1866. Alors ça, la transcription phonétique, c'est une des façons que les Japonais ont adoptées pour transposer donc des notions et des concepts occidentaux en japonais. Alors, bon, là vous avez la couverture du Seijo, mais vous avez un autre traducteur japonais du nom de Nakamura Keu, autrement appelé Nakamura Masanao, qui lui a vécu entre 1832 et 1891 et qui lui propose en 1872, donc quelques années plus tard, une traduction pour ce mot liberty, qui est Jiyu Nori. Donc c'est sur la liberté. Et pour traduire cette notion de liberté, notre traducteur japonais, lui, recourt à l'autre façon qu'ont eu les Japonais de transposer ces notions occidentales, c'est d'emprunter au vocabulaire chinois, quitte à recomposer, utiliser des caractères chinois, des kanji, pour traduire justement le sens. Donc vous avez une technique phonétique et une technique sémantique, on pourrait dire. Et parmi donc tous les composés chinois avec ce mot zi qui veut dire donc de soi-même, hein, vous avez une liste ici. Vous avez zi you, zi zhu, zi zai, zi ran. On va y revenir la prochaine fois. Le temps passe. Il a choisi donc le premier, zi you, qui veut dire donc procéder de soi-même. C'est comme ça qu'il rend donc cette notion de liberté venue donc de la tradition anglaise. Bon. Je suis obligée de m'arrêter là, donc nous continuons la semaine prochaine, si le Bouddha nous prête vie, etc. Donc merci de votre attention. Merci.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.